Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans Les grandes voix. Bonjour à Catherine, à Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonjour Pierre.
Notre société est-elle décivilisée ? Constat du chef de l'État, si l'on en croit les indiscrétions du dernier Conseil des ministres. Oui, mais voilà, le terme fait tâche, puisque c'est une théorie reprise par l'extrême droite depuis plusieurs décennies. Propos qui fatalement dérangent la majorité. À quoi joue le président ? Les LR, eux, jouent leur carte maîtresse en damant le pion du gouvernement et cette proposition de loi pour résoudre le problème de l'immigration, face à une majorité qui estime ses propositions parfois inconstitutionnelles et un rival RN qui les accuse de plagiat. Les LR sont-ils de retour dans le jeu politique. En Turquie, les électeurs désigneront demain leur prochain président. Suspense à peine soutenable puisque le sortant Recep Tayyip Erdogan est en bonne voie pour être réélu. Quelles conséquences pour l'Europe ? Nous nous interrogerons. Et puis aux États-Unis, la course aux primaires pour 2024. C'est parti, mais très mal parti pour Ron DeSantis. Le gouverneur de Floride ferait un très bon gouverneur de Floride, dit Donald Trump, qui aussi a profité des bugs informatiques de ce live tweet avec Elon Musk. Vous avez le programme, le débat des grandes voix, c'est parti. Qu'a dit Emmanuel Macron mercredi en Conseil des ministres ? Si les murs du salon Murat pouvaient parler, ils pourraient peut-être nous confirmer cette phrase rapportée. Il faut être intraitable sur le fond. Aucune violence n'est légitime, qu'elle soit verbale ou contre les personnes. Il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation. Réaction, bien entendu, aux multiples drames de la semaine. Le problème, c'est que ce terme, créé par le sociologue allemand Norbert Elias pour réfléchir aux causes de l'arrivée du nazisme dans son pays, a été depuis repris par le penseur d'extrême droite Renaud Camus, qui est aussi à l'origine de la thèse du grand remplacement. Qu'est-ce qui lui prend, Charles Villeneuve, au président ?
Moi, je ne crois pas qu'il joue à quoi que ce soit, le président de la République. Je pense plutôt qu'il se verse.
Je pense qu'on a un problème de micro, on n'entend pas Charles Villeneuve. Tenez, prenez celui-là plutôt.
Je prends celui-là. Ou alors, attendez.
Ou prends le mien, prends le mien.
Voilà.
Ah. Ça commence bien.
Voilà, ça commence bien.
Bah, tu vois,
c'est la décivilisation
ça, c'est
du studio.
Ça, c'est le réel, il faut réviser le matériel.
C'est un complot.
Voilà.
Pardon, Charles Villeneuve.
Oui, alors, vous avez posé la question en disant à quoi joue le président. Je ne crois pas qu'il joue à quoi que ce soit, le président de la République. Je pense plutôt qu'il ne se berce plus d'illusions parce qu'il a capté et tente d'analyser tous les signaux que nous renvoie sans cesse la vraie vie, c'est-à-dire le réel. Des professeurs insultés, des policiers caillassés, des pompiers agressés, les médecins molestés, le personnel des hôpitaux qui risque leur vie quand ils ne sont pas assassinés, des frontières piétinées. Et je me suis adressé ce week-end, je connais assez bien la plupart des autorités, soit criminelles, soit de la sécurité publique, qui travaillent à Marseille, qu'on n'a jamais mis autant de moyens, c'est ce que vous disent ces responsables et techniques, et qu'ils ont de plus en plus de mal à juguler le système qui est en train, selon eux, je les cite, de fabriquer des décrocheurs à la pelle. Les policiers eux-mêmes l'admettent et ils ajoutent que le carburant du crime, ce sont des gamins qui commencent à 12-13 ans, qui font leur classe et apprentissage comme chauffeurs, c'est-à-dire comme sentinelles d'alerte dans les quartiers, avant l'initiation à l'assassinat à la Kalachnikov. Pour préserver leur territoire, ils ont alors entre 18 et 21 ans. Et dans l'échelle de la violence, là aussi je les cite, on est en train d'atteindre le même degré que les cartels colombiens, tellement le trafic de drogue et son écoulement rapportent d'argent.
Catherine.
Oui, décivilisation. Alors, il faut voir, c'est un terme, je ne sais pas si c'est d'extrême droite, en tous les cas, Renaud Camus a employé ce terme, mais il a aussi écrit un livre qui s'appelle L'insoumission. Alors, ça voudrait dire aussi que les insoumis, vous voyez, c'est complètement idiot. Le mot est approprié, parce que qu'est-ce que c'est que la civilisation ? Ben, c'est accepter les normes, les règles qu'impose la civilisation pour vivre en société. Et aujourd'hui, toutes ces normes, ces règles, l'autorité n'est plus respectée. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est le timing du président pour employer ce mot. Parce qu'il y a 6 mois, il avait convié les maires à travailler à la...
À refaire civilisation.
Maintenant, s'il parle de décivilisation, c'est comme s'il y avait un échec. Donc, il y a un peu.
En tout cas, un constat d'impuissance.
Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il réunit à déjeuner la semaine dernière 4 sociologues, dont Jérôme Fourquet, Jean Viard, pour leur parler de la France. Et ils sont là, autour de la table, avec le secrétaire général Alexis Kohler, qui prend des notes parce que, visiblement, le président et son secrétaire général ont besoin de savoir ce qui se passe en France, en prenant des notes. Et puis, c'est à la fin, vous voyez. Mais c'est bizarre. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas la France. Moi, ça me fait penser, c'est comme si le général de Gaulle avait fait venir avait fait venir l'explorateur Paul-Émile Victor pour lui expliquer le Grand Nord. Vous voyez, bon, donc c'est comme s'il ne connaissait pas. Donc, et à la fin, Jérôme Fourquet lui dit, le problème, c'est qu'il y a un processus de décivilisation. Et le lendemain, au Conseil des ministres, il lâche ça.
Gérard Carreau.
Oui, alors je vais faire un compliment au président de la République. Le constat est juste. Le constat est tout à fait juste. Et je dirais simplement que le président de la République est très souvent meilleur dans les diagnostics que dans les actes qui suivent, dans le traitement. Il est meilleur dans le diagnostic que dans le traitement. Bon. Mais cela étant, le constat est juste. Quel est-il ? Oui. Il est que notre civilisation recule depuis alors une dizaine, une vingtaine d'années, peut-être même un peu plus. Elle est en marche arrière, pas dans tous les domaines. Prenons la science, prenons la médecine, il y a au contraire des progrès des fulgurants, oui. Hein, sans parler de ChatGPT, etc. Mais dans le domaine, elle recule dans un domaine fondamental de la vie quotidienne, qui est le domaine sociétal. Et là, c'est sur tous les plans. C'est cette régression, sinon extinction, des valeurs que nous tous qui sommes autour de la table avons connues lorsque nous étions enfants. Des valeurs qui, je dirais presque, allaient de soi, les valeurs traditionnelles de la République. C'était l'autorité, celle des parents, celle du maître, etc. Ces valeurs-là, pour l'instant, s'évaporent peu à peu. La morale civique, elle n'était pas forcément écrite. Mais la morale civique, ça commence quand on est dans un métro, dans un autobus ou dans un train et qu'on se lève pour une personne qui a l'air handicapée, etc. Ça, c'était des choses traditionnelles. Les enfants le sentaient eux-mêmes. Bon. Tout ça a disparu. Mais alors, simplement, moi, je n'aurais pas parlé de décivilisation, parce que le mot, déjà, rien que le mot fait la controverse et on oublie le fond. J'aurais repris, à mon sens, ce qu'il n'avait jamais fait, le mot de Darmanin d'ensauvagement. Ensauvagement, c'était la continuation très directe de ce qu'avait dit le premier, il y a 20 ans, Jean-Pierre Chevènement, voilà. Lorsqu'il avait parlé des jeunes, des sauvageons.
Les sauvageons, c'est autre chose.
Retour à l'état sauvage. Peu à peu, d'une forme de retour à l'état sauvage. La civilisation, c'est au contraire le contraire de l'état sauvage. Donc je pense que ce mot-là était meilleur, mais comme c'était Darmanin qui l'avait sorti, il a inventé son...
Moi, je suis tout à fait d'accord sur l'emploi du mot, parce que j'adore quand on dit les mots sont à droite ou les mots sont à gauche.
On les labellise.
C'est faux.
Oui.
Je vous rappelle que dans l'histoire, le mot patriotisme, par exemple, était un mot de gauche qui est devenu, après Maurras, un mot de droite. Donc, ça ne veut rien dire. Je trouve que c'est une polémique inutile. Et moi, je trouve que le terme est assez bien senti, parce qu'au fond, des civilisations... c'est le manque de civilité. Et ça, oui, le manque de civilité, on le voit partout. Et puis, des civilisations, c'est la volonté. Et moi, ça me paraît, au-delà de tous les problèmes de sécurité, etc., quand vous avez toute une partie de la population, qui sont les jeunes, qui vous disent, et peut-être ont-ils raison, qui disent, il faut arrêter la production, il faut arrêter la consommation, parce que sinon notre planète brûle, c'est un peu la même chose, parce que la civilisation, c'est aussi une civilisation de la consommation, la nôtre.
Qu'il n'y a qu'un seul modèle ?
Il peut y en avoir d'autres, c'est pour ça que je dis, il peut y en avoir d'autres. Mais dans le modèle que nous avons, c'est vrai que le modèle, non seulement est bafoué, mais en plus est attaqué conceptuellement. Donc moi je crois que c'est un des tournants du siècle.
Je crois qu'il visait surtout cette brutalisation qui envahit le quotidien. Et là, les cas qui s'accumulent. Et là, évidemment, depuis l'infirmière poignardée à Reims, les trois policiers à Roubaix tués dans un accident de voiture parce qu'un type a pris un contresens et était drogué. Les fusillades à Marseille. Et pas oublier le petit-neveu. Le petit neveu qui,
voilà, à mon avis, c'est l'origine.
Voilà, qui a eu des coups de pied dans la tête parce qu'il essayait de protéger son magasin. Donc tout ça, ça évidemment beaucoup
du président.
Jean-Baptiste Trogneux.
Donc ça, il y a eu trois gendarmes roués de coups à Calais par des migrants qui voulaient partir en Angleterre. Donc tous les jours, c'est cette brutalisation. Et ça, cette brutalisation, ça, c'est vrai que il y a plus de freins. Elle se manifeste tous les jours. Et ça, on peut parler de décivilisation.
Moi, je vais vous donner mon sentiment. Je crois que la, la décivilisation, elle a vraiment marqué son, sinon son début, puisque ça a commencé doucement et puis ça s'est développé, mais elle a marqué, je dirais presque, son l'apogée de la sauvagerie avec un fait, qui est l'exécution horrible de Samuel Paty.
La décapitation.
Quand on coupe la tête d'un professeur qui sort de son lycée, qui est menacé, entre parenthèses, je ne parle pas de tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire que l'État l'a laissé tomber, tout le monde l'a laissé tomber. Mais le fait même, si vous voulez, et derrière ça, on n'ose pas, notre société n'ose pas, je dis bien notre société, notre ministre de l'Éducation nationale, notre président de la République, nos assemblées, n'ose pas nommer un collège du nom de Samuel Paty. Parce qu'on dit, oh là là, attention, si vous nommez le collège où il enseignait Samuel Paty, vous allez provoquer des troubles. On ne sait pas ce qui va se passer, il y a peut-être une partie des élèves qui vont... Et alors, c'est ça la décivilisation.
Une pause, et on revient dans un instant avec les grandes voix, tout de suite.
Europe 1, Pierre de Villeneuve.
Avec les grandes voix, Gérard Carrérou, Michel Cotta, Catherine et Charles Villeneuve, et effectivement, diagnostic avec ce mot controversé ou pas, voilà, en tout cas, qui a marqué, qui est étiqueté de décivilisation. Nous avons fait l'analyse avec les grandes voix. Alors maintenant, comme le disait Gérard Carrérou, Michel Cotta, il faut passer à la suite.
Hein. Maintenant, c'est quand même plus dur à faire qu'à dire, parce que ça fait longtemps qu'on a fait... À ce diagnostic, moi je trouve qu'il s'est effectivement aggravé d'une manière... Au fond, pendant qu'on parle, on apprend qu'un député républicain se fait menacer de mort et qu'on découpe sa tête, qu'on lui envoie sa tête en papier. Enfin bon,
vous
on
parlez
est quand
de Franck
même...
Louvrier.
Alors, au début...
Le maire
de la Baule.
Le problème, c'est qu'on s'habitue à ça progressivement. Au fond, au début, nous, on n'a pas dit grand-chose. Et on en arrive aujourd'hui, au bout de 6 mois, à l'idée de se dire « Oui, vraiment, ça va pas, quoi, ça va pas, on peut pas supporter cette violence. » Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la violence? Je pense quand même qu'il y a sûrement une prise de conscience qui a été faite, mais qui est faite depuis longtemps, mais que, malheureusement, elle n'est pas tellement... Comment développer? Tu dis, on est comme... En Colombie, qu'est-ce qu'on fait
Gérard,
contre les cartels de Colombie?
Il a un plan triennal, non?
Alors, j'ai pas un plan triennal. Simplement, quand on se demande ce qu'il faudrait faire, on en arrive tout de suite immédiatement à un domaine qui est le domaine régalien de l'État. Parce que c'est l'État qui impulse l'autorité et le respect de l'autorité, que ce soit dans le domaine du maintien de l'ordre. Ce que je veux dire, Michel, je sais que tu n'es pas d'accord, mais peu importe, mais tu me le diras toi-même. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le point fort depuis 6 ans de notre président de la République. Depuis 6 ans, il y a un certain nombre, et on l'a dit parfois ici ou souvent, d'angles morts. Ces angles morts, c'est de dire, au fond, dans la société française, il suffit... C'est ça le maître mot pour le président de la République. Il suffit que l'économie marche bien, que le chômage, et il y arrive d'ailleurs, en partie sur le chômage, plutôt bien, que le chômage régresse, etc. Et les autres problèmes n'auront plus autant d'acuité. Et c'est là qu'il se trompe fondamentalement. Le non-respect, effectivement, de la police par les malfaiteurs, le non-respect de la justice, eux-mêmes par les magistrats qui n'appliquent pas les peines les plus sévères, très souvent, et ainsi de suite, et que l'État laisse faire, c'est ça qui finalement tue la civilisation.
Laisse-moi
répondre simplement à Carrérou, je suis absolument d'accord avec tout. La seule réserve que je fais, c'est que l'autorité de l'État, elle peut être aussi décentralisée. Je veux dire, elle est décentralisée et elle doit l'être. Donc il n'y a pas seulement une autorité au sommet, il y a une autorité que la décentralisation devrait, à mon avis, beaucoup plus assurer. Voilà.
Oui, mais c'est quand même le chef de l'État qui est le seul élu au suffrage universel et qui a les moyens de faire la pression.
Mais oui, quand il enjoint les ministres de travailler en profondeur, c'est-à-dire qu'il leur repasse le bébé. Moi, je dirais, quand on fait un constat qui est celui d'un sociologue, mais malheureusement, c'est un sociologue qui est président de la République, ça veut dire qu'il faut lancer un grand plan. et qu'un grand plan, ça s'organise, et qu'on fixe à chacun, chaque ministre...
Rien ne te dit
comment...
qu'il ne le fera pas, là.
Ah ben d'accord, mais enfin, peut-être qu'il le fera, là, mais pour l'instant, c'est
le
pas...
Le constat date de cette semaine.
Le constat... bon,
mais les Français n'y croient plus. Vous allez lancer un plan, et les Français qui sont 70% à ne pas vouloir d'une réforme qui est structurelle, qui est la réforme des retraites, maintenant vont dire, bah, très bien, c'est bien, qu'est-ce que c'est que ce plan?
Non mais tout à l'heure, je vous ai cité ceux qui sont les vigies de la République.
La même chose.
C'est-à-dire notamment les policiers ou les juges.
Oui, voilà.
Et les maires.
Et les maires, bien sûr. Mais surtout. Ceux qui sont en action, je parle de ceux qui sont en action, pas seulement les observateurs. Je dis vigie, mais vigie actif.
Les maires aussi.
Les policiers, non, parce qu'il a moins de pouvoir, puisque le pouvoir d'investiguer, le pouvoir de juger, ce sont les magistrats et ce sont les policiers. Quand des policiers de vraiment pratiques très longues, qui sont passés par le Quai des Orfèvres, etc., et qui sont au contact de ce qui se passe, parce que moi, on dit souvent que Marseille est le capital du crime. Non, c'est un laboratoire. Pratiquement toutes les techniques criminelles nouvelles sont toujours nées plutôt dans le sud, et notamment à Marseille.
C'est la Silicon Valley du crime, quoi.
Et exactement. Et donc, ces gens-là vous disent, le système est en train de fabriquer des chômeurs et des petits criminels qui vont devenir grands à l'appel. Des décrocheurs, ils appellent ça des décrocheurs.
Une profession, vous voulez dire.
Mais parce qu'on a ouvert les vannes. Oui. Aujourd'hui, Malika Sorel, qui a fait la même école que la première ministre, Polytechnique, qui est d'origine algérienne, vous le dit, aujourd'hui, toute la nouvelle génération d'immigrés sont deux fois plus au chômage que la génération des années 70-80. Or, il y a un déferlement qui se prépare, avec une famine incroyable dans le Sahel, près de 28 millions d'Africains, et qui en ont pour objectif que l'Europe. Parce que le paradis, c'est l'Europe, les aides sociales, c'est l'Europe. Et que tous ces gens-là,
et
de toute façon...
Et la France en particulier, qui est une pompe aspirante, parce qu'elle est la plus généreuse.
S'accumule au-delà de la frontière, et notamment en Italie. C'est pour ça que je ne comprends pas très bien, d'ailleurs, la polémique du ministre de l'Intérieur par rapport à la première ministre italienne. Je ne comprends pas, parce qu'il faut s'arranger plutôt.
Madame Colonna est allée justement à Rome.
Oui.
Pour,
non mais, et donc, tout ça va déferler. Or, il faut à tout prix, non pas réguler le flux qui va de toute façon s'abattre sur l'Europe, mais il faut faire une pause à tout prix.
C'est pour ça que les deux sont liés. Oui. C'est pour ça que la sécurité est liée, malheureusement, à l'immigration.
Et nous allons parler de l'immigration dans un instant. Une petite minute pour vous dire que dès demain et jusqu'au 11 juin, l'élite du tennis mondial est sur Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Et à cette occasion, Europe 1 vous offre deux places pour assister avec la personne de votre choix, bien évidemment, puisqu'il y a deux places, à la grande finale dames qui aura lieu le 10 juin. Vous avez jusqu'à demain pour jouer. Il vous suffit d'envoyer tennis, T-E-N-I-S, par SMS, 739-21, 3 fois 75 centimes, plus le coût d'un SMS. Et on vous souhaite bonne chance. A tout de suite pour les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
10h29, nous sommes dans les grandes voix avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Vous parlez de l'immigration. Souvenez-vous de la une du JDD dimanche dernier. Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Olivier Marleix, le plan des patrons LR pour lutter contre l'immigration. Gérard Carrérou, pourquoi est-ce que la droite ferait mieux que Renaissance sur ce sujet?
D'abord parce qu'elle n'a pas fait grand-chose quand elle était au pouvoir. Si elle avait fait... Non mais c'est vrai. Si elle avait beaucoup fait, si elle avait contribué à résoudre un certain nombre de problèmes, elle n'arriverait pas là comme... Mais bon, très bien, mieux vaut tard que jamais. Elle arrive avec un projet, avec des tas de mesures... Mais moi, je dirais simplement, de la même manière qu'on parlait tout à l'heure du mot des civilisations, c'est toujours le premier truc, c'est le constat. Charles l'a dit, et avant Charles, là, il y a 5 minutes, Sarkozy l'avait dit lui-même. Attention, le problème de l'immigration du sud vers le nord, ce problème ne fait que commencer. Or, on s'aperçoit, alors qu'il ne fait que commencer, avec tout ce que tu as commencé à expliquer, Charles, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on a déjà des flux incroyables. On a aujourd'hui entre 700 000 et 1 million de gens qui sont sur le territoire national et qui ne devraient pas y être. Je veux dire par là qu'ils n'ont pas de papier, qui n'ont pas demandé un droit d'asile,
etc. Ce sont des illégaux.
Ce sont des illégaux. 700 000 à 1 million. Et on a des flux qui, légaux, ceux-là, amènent 500 000 par an. C'est le solde de l'année dernière. Comment voulez-vous pouvoir contrôler cette immigration sans mesure de grande autorité? Et c'est ça qu'il faut déjà. Et c'est pour ça peut-être que les Républicains ont raison. Il faut d'abord un moratoire. Il faut stopper le flux. Il faut stopper le flux. Je pense à une mesure, le regroupement familial. Il faut l'étude, il faut l'aménager, parce que vous avez le droit, dans certains pays, notamment l'Algérie, avec les accords d'Évian, vous avez le droit, une famille algérienne peut s'enrichir de 10 personnes simplement parce qu'il y en a un qui travaille en France. Oui. Entre les frères, sœurs et grand-père, grand-mère, etc.
Et faux frères et sœurs, parce que comme il n'y a pas...
Donc il faut commencer par quelque chose.
Par revoir le traité qui date de 1968 entre la France et l'Algérie.
De toute façon, c'est effectivement... Enfin, on voit bien nos préoccupations. On voit bien que les préoccupations, les quatre ou cinq pistes des Républicains peuvent être acceptées par le gouvernement. Il y a des lignes rouges des deux côtés, mais peut-être qu'il peut y avoir une négociation sur notamment est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on fait venir des migrants qui peuvent servir dans les métiers ici. Il y a une négociation possible. Si les gens le veulent bien.
La grande réponse du gouvernement, en attendant, c'est mais vous comprenez, dans votre système, il faut réformer la Constitution. Donc
ça s'appelle la discussion parlementaire.
Voilà.
Bon, ça s'appelle la discussion parlementaire. De toute façon, les Républicains n'ont pas la majorité tout seuls et les macronistes n'ont pas la majorité tout seuls. Ouais. Moi, je crois qu'il y a si c'est un sujet sur lequel on doit pouvoir arriver à un consensus, c'est quand même celui-là. Et si les hommes politiques ne sont pas capables de faire ça, alors les hommes politiques ne servent à rien.
Oui. Mais c'est vrai que l'immigration, c'est sans doute le sujet où le gouffre entre les aspirations des citoyens et les discours des politiques marque un trou aussi béant. C'est-à-dire que depuis 30 ans, on n'avance pas. Non que certains n'aient pas, en tous les cas en parole, essayé. Quand Nicolas Sarkozy avait fait son ministère de l'identité et voulait choisir ses immigrés par quota, choisir les immigrés dont on avait besoin. Mais souvenez-vous de la gauche, du Parti socialiste, du Monde, vraiment des campagnes. Je veux dire, la campagne était telle qu'à force, on renonce, quoi, c'est terrible. Bon, il faut dire que la gauche, quand même, Nicolas, je veux dire, Manuel Valls a plutôt favorisé l'ouverture, il a pris des circulaires qui favorisaient d'ailleurs.
Il passait pas pour un laxiste, c'est ce que font
les Danois.
Attends, les Danois, eux, sont arrivés à juguler parce qu'ils se sont rendus compte que pour éviter qu'il y ait des ghettos, de limiter à 40% le nombre des immigrés dans des grands ensembles. Pour qu'après, ils ne deviennent pas des ghettos. Eh bien, ça marche, ça crée des problèmes, parce qu'il y a aussi des gens au Danemark qui saisissent la Cour européenne des droits de l'homme. Ça marche, ça. Mais il y a un consensus profond, et c'est ça qui est différent entre nous et la gauche, et entre nous et la France, enfin, je veux dire, c'est que droite et gauche sont d'accord.
Oui, on cite les Danois, justement. Catherine vient d'expliquer ce qui se passe. L'idée maîtresse, vous rappelez l'idée maîtresse des Républicains, des propositions républicaines, c'est que la France dispose de sa souveraineté en accueillant qui elle veut sur son territoire et qui elle veut garder. Tous les enfants nés de parents, par exemple, en situation illégale, ne peuvent bénéficier, dans le texte de proposition, de la nationalité française, même s'ils sont nés en France à partir du moment où leurs parents sont entrés illégalement. Et rien ne pourra changer si nous restons englués dans l'Union européenne telle qu'elle s'impose à nous, sans oublier la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'en cela, il faut évidemment un référendum pour modifier, se désengager, se désengluer en quelque sorte de l'Union européenne. C'est ce qu'ont fait les Danois.
Gérard Carreau.
Oui, et moi je reprends cette phrase de Finkielkraut, du philosophe. On ne cesse d'invoquer l'état de droit pour museler l'action politique. C'est très exactement ce qui paralyse aujourd'hui toute action en matière d'immigration. Et les Républicains le savent, puisque pour la première fois, on peut dire, de leur histoire, ils attaquent frontalement ce problème. Il faut réformer un certain nombre de dispositions de la Constitution qui redonnent à la France la possibilité de souveraineté nationale sur ce sujet-là.
C'est exactement l'idée.
C'est exactement, parce que sinon, effectivement, on nous dira à tout moment, ah oui, mais ça, on ne peut pas le faire. Et déjà, Darmanin, qui avait quelques velléités de faire des choses, il se voit à chaque fois retoqué par l'aspect des...
C'est vrai qu'on critique les politiques, mais dans le fond, qui a le dernier mot ? Ce sont les juges. Ce sont les juges qui pilotent la politique d'immigration. Vous avez bien vu, quand il y avait un passeur dans le Sud qui faisait passer des immigrés depuis l'Italie, eh bien, le Conseil constitutionnel avait dit qu'il fallait traiter les immigrés avec humanité. Donc, comme humanité au nom des droits de l'homme. Donc, quand vous êtes freiné par les juges, par le Conseil constitutionnel, par le Conseil d'État et sans compter la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, vous êtes muselé. Et ça, quand on le dit aujourd'hui, alors, vous voyez, ça, on est traité comme la droite le dit, mais on n'a pas le droit de le dire.
Oui, moi, je fais quand même cette remarque. L'exemple anglais montre que même s'il voulait être complètement fermé, etc., jamais l'immigration n'a été aussi haute.
Oui. 660 000
Ils ont fait le Brexit pour ça. Oui. Et ils n'y sont pas arrivés. Et je note que hier, des gardes-côtes italiens ont quand même secouru au large de la Sicile 1000 migrants qu'ils ont ramenés à Madame Meloni. Donc, si c'était si facile, s'il n'y avait pas cet appétit épouvantable du Sud pour le Nord, évidemment, on serait tous d'accord.
Non, mais Michel, on ne peut pas tout faire.
On peut entre tout faire et ne rien faire.
Oui, il y a quand même une gradation, me semble-t-il.
Nous sommes d'accord.
Or, dans ce domaine-là, on n'a jamais essayé. On n'a pas essayé, et le président de la République n'a pas essayé, depuis 6 ans, de négocier avec Bruxelles la possibilité de récupérer, dans un certain nombre de domaines, une certaine forme d'autonomie de la France. Enfin, de souveraineté nationale, simplement.
Peut-être que l'Europe étant confrontée au même problème, on doit pouvoir arriver
à essayer,
l'Europe. Il faut quand même... plutôt que de quitter l'Europe a priori,
on est tous d'accord.
Faire évoluer l'Europe
On est tous d'accord sur ce plan-là, et je crois que les Français le sont aussi. C'est aussi la raison pour laquelle les Français ils n'ont jamais été autant unis, justement, parce qu'eux-mêmes ressentent la difficulté et le problème dans leur vie quotidienne. C'est la raison pour laquelle ils sont unis à plus de
70%,
etc. Mais le flux est tellement nombreux, est tellement énorme, que l'intégration sociale est impossible. Et d'ailleurs, nous nous sommes privés de plusieurs des instruments de ce brassage social, de cette intégration sociale. Le service national était un instrument formidable sur le plan des brassages sociaux.
Des discussions.
Oui, mais ceux qui s'imaginent que mettre l'armée dans les quartiers, défavoriser les quartiers qui sont en déshérence, est une erreur formidable. L'armée n'est pas faite pour ça.
Il y avait d'autres.
Je trouve extraordinaire, c'est que depuis 30 ans, il y a toujours les mêmes procès d'intention, quoi qu'on propose. Si la droite propose, regardez, là, la droite vient de proposer un truc, mais aussitôt, le Monde titre la droite républicaine face à ses démons. C'est-à-dire que toujours...
Pas que le Monde. Il y a Anglade, Pierre-Alexandre Anglade, qui dit, les LR se reprochent du RN.
Rappelez-moi qui est Monsieur Anglade.
Eh bien, c'est le gouvernement et la majorité, voilà.
Et on va les traiter de fascistes, parce qu'ils proposent...
Pardonnez-moi.
C'est fou. Il y avait d'autres aussi. Il y avait d'autres
Français de l'étranger.
Il y avait d'autres sentiments. Il y avait d'autres clubs. Il y avait d'autres centres d'intégration. Il y avait d'autres centres qui étaient le Parti communiste, l'Église catholique. Tout ça a disparu. Il y a effectivement l'armée.
10h40, une pause. On revient dans un instant avec les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve. Avec Michel Cotta, Catherine, Charles Villeneuve et Gérard Carreau, c'est demain soir que la Turquie connaîtra le visage de son nouveau président. Depuis plusieurs semaines, la presse française nous met en avant l'opposant Kılıçdaroğlu, presque en nous le vendant comme le sauveur de la Turquie. Et pourtant, Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 2014, est arrivé en tête il y a 15 jours à l'issue du premier tour. Mieux que ça, il semble être en passe d'être réélu demain, même s'il a dû affronter un second tour, ce qui n'est jamais arrivé pour lui. Comment expliquer la solidité d'Erdogan, Gérard Carreau?
D'abord, effectivement, la presse française se trompe souvent quand il s'agit des élections en dehors de la France. Ils n'ont pas vu Trump arriver, ils voyaient tous arriver la démocrate.
C'est pas qu'ils ne l'ont pas vu arriver, c'est qu'ils ne voulaient pas le voir arriver.
Mais c'est ça la raison. Ils ne veulent pas. Au fond, la presse, souvent la presse, la presse française au niveau international fait du wishful thinking. Voilà. Qu'est-ce que je souhaite ?
Traduction,
je souhaite
prendre ses désirs
je souhaite
pour des réalités.
Que Trump soit battu, je souhaite que Erdogan soit battu, etc. Bon, donc ils ont raté leur coup. Et, ouais. Et alors, heureusement ou malheureusement, moi, je n'ai pas d'opinion personnelle là-dessus. Je pense sur, non, sur Erdogan, ah, oui, je ne le connais
moi,
pas bien. C'est pas un de mes proches.
Moi, j'en ai.
Erdogan, non, simplement, je regarde. Là aussi, je commence par le constat. Je constate une chose, c'est qu'il va être probable, alors très probablement, réélu avec une confortable, je pense, avance au deuxième tour. Et pourquoi l'est-il ? C'était votre question.
Oui.
Il l'est tout simplement parce qu'il a incarné, à travers une alliance politique qui est celle des milieux nationalistes, le nationalisme ottoman, le nationalisme turc, il est très fort. Et l'alliance avec une forme d'islam politique, le rassemblement de ces deux courants très forts, lui donne une majorité. Le retour, et il y a dedans quelque chose qui, on l'a vu dans d'autres élections, dans d'autres pays, c'est le retour à la grandeur d'autrefois. La nostalgie de
l'Empire
l'histoire.
Ottoman.
Et on en parlait avec Charles pendant la pub. L'Empire ottoman, qui a quand même réussi à être un empire chrétien jusqu'au début des croisades. Eh bien, cet empire-là, il y a des, pour les Turcs d'aujourd'hui, c'est quelque chose dans la tête. Et Erdogan, à tort ou à raison, il incarne ça.
Surtout son cortège d'exactions. Et de massacres, notamment. Notamment des Arméniens.
Non, mais décidément, c'est la revanche des empires.
Hein, oui. Non, mais c'est vrai.
La revanche des empires, c'est l'Empire vrai. Russe, l'Empire
c'est
ottoman.
Vrai. Oui, c'est vrai. Absolument. Nostalgie.
On va avoir les
Habsbourg,
bien sûr.
Tout Turc qui se respecte. Tout Turc.
Moi, j'aimerais bien.
Y compris un grand journaliste comme Chipayoglu, qui a créé l'agence SIPA photographique, qui est internationale, et avait la nostalgie de l'Empire ottoman. J'en parlais souvent avec lui. Et pourtant, c'était un libéral, c'était un humaniste. Etc., etc. En tout cas, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe et pour le camp occidental qui devra composer avec cet islamo-conservateur qui est à la fois un allié et un adversaire. Il bloque l'adhésion de la Suède, par exemple, à l'OTAN. Et son maintien en pouvoir ferait les affaires de Poutine parce qu'il est copain, il est pote avec Poutine, avec la Chine, avec l'Iran, en passant par le Brésil et l'Arabie Saoudite. Un des axes d'Erdogan sera d'un soutien sans faille aux frères musulmans. Il faut bien le comprendre, ça, parce qu'à l'AKP, sa majorité parlementaire, il a déjà sa majorité écrasante. Il a déjà une assemblée nationale à sa disposition. Et pour la conquête de l'Europe du Sud, parce que c'est ça l'objectif des frères musulmans, il sera aidé par sa diaspora turque, qui est très importante en Allemagne, moins importante en France, mais pas négligeable et actif. C'est en cela que ce n'est pas une très bonne nouvelle.
Michel Cotin.
De ce point de vue-là, il participe aussi à la partition, si j'ose dire, entre les Occidentaux et les restes. Et alors lui, il est un peu à cheval, parce que comme la Turquie est à cheval, au fond, sur les deux continents. Mais c'est vrai que...
Après, c'est un officier de liaison, hein, c'est-à-dire qu'il a permis...
Un officier de liaison, mais quand même très engagé.
Très trouble.
Et quand même assez engagé
bien sûr,
du côté... Du côté de la condamnation de l'Occident, pas de la condamnation, mais de la fin
absolument.
De l'Occident.
Oui, voilà. Et des mœurs occidentales. Voilà. Il est d'ailleurs complètement aligné, il est d'accord avec le discours de Poutine sur ce plan-là. Oui. Il fait, et l'ambiguïté d'un homme comme Erdogan, qui se comporte, on dit toujours le sultan Erdogan, d'ailleurs les Turcs parlent comme ça depuis, et notamment en turc. Bon. Et c'est qu'en même temps, il fournit des drones à l'Ukraine. Tout en étant un allié de Poutine.
Oui. Catherine.
Oui, il faut dire que pour être... Non, à 264 000 voix près, il aurait pu... Il lui a manqué pour être élu au premier tour. Quoi. C'est
oui,
très
au
peu.
Premier tour.
Et donc, son adversaire, on pensait, nous on racontait, qu'il pouvait compter sur un troisième qui s'appelle...
Sinan Ogan,
qui avait fait 5,17% voilà. Et dont tous les électeurs sont venus parce qu'ils ne voulaient pas d'Erdogan.
Bon,
mais il s'est rallié à lui parce que finalement les électeurs trouvent que l'adversaire est trop à gauche. Bon, et puis il faut bien dire que toutes les télévisions qui sont dans les mains d'Erdogan ont fait une campagne sur le risque civilisationnel, sur la peur du terrorisme, sur la diabolisation des mécréants LGBT, parce que ça joue un grand rôle. dans les pays musulmans. Et puis surtout, eh bien Erdogan, il a mis le paquet. Il a augmenté les salaires minimums, les retraites, et puis il a donné la gratuité du gaz. Donc, c'était en ce moment où ça coûte cher.
C'est,
eh bien,
important,
voilà, c'est important,
compte tenu de l'inflation qui est officiellement à plus de 50%, en réalité du double.
Les 72%.
Mais les Turcs sont redevables à Erdogan pour une raison simple. C'est qu'il a remis à l'une des premières places dans le jeu géopolitique international, la Turquie. La Turquie pèse et compte, ne serait-ce que par rapport au détroit du Bosphore, des Dardanelles, c'est-à-dire le passage de la mer Noire aux mers chaudes, à la Méditerranée, à l'accès au Moyen-Orient, à l'accès à l'Afrique.
Une pause et dans un instant, on parle de Ron DeSantis. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h. Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des grandes voix et direction les États-Unis avec ce score, Donald Trump 1, Ron DeSantis 0. Le gouverneur de Floride avait une idée originale, s'entretenir avec Elon Musk lors d'un live tweet pour lancer sa campagne. Seulement voilà, avec 600 000 personnes connectées, le live tweet a totalement buggé. Résultat, un candidat qui devient la risée des deux camps alors qu'il se rêvait en golden boy des Républicains. Les jeux sont faits pour Ron DeSantis, Gérard Carrère?
Les jeux ne sont pas faits parce que les primaires ne font que commencer. Elles n'ont pas encore, on n'a pas voté encore aux primaires. Mais simplement, je dirais qu'il a raté le coche. Et je veux dire pourquoi. Au fond, il avait tout. Il avait tout pour prendre la place, toute chaude, de Trump. Trump était démonétisé d'une certaine manière. Je parle d'il y a 6-8 mois, au moment des élections de mid-term. Trump, ses candidats n'ont pas bien réussi, etc. Ils ont certes conquis la Chambre des représentants, mais ce n'était pas la victoire trumpiste qu'on avait. Du coup, Trump, et nous-mêmes ici, disions « Ah, il est peut-être fini, Trump ».
Il a été condamné aussi.
Et entre-temps, il y a eu toutes les condamnations, etc. Enfin, toutes les tentatives de condamnation, puisqu'il n'a pas encore été vraiment condamné. Mais DeSantis apparaissait comme Monsieur Parfait, Mr. Perfect. Il avait tout pour ça. Il était né d'une famille modeste, italienne. Il avait été boursier à l'université, mais il avait fait une guerre formidable. En Amérique, on aime bien ça. Il avait fait une belle guerre, comme on disait, ou plusieurs guerre même. Il était devenu avocat militaire, il a défendu effectivement d'un certain nombre de procès l'armée américaine. L'armée américaine, c'est quand même un des fondements de l'Amérique. Il avait tout. Il se fait élire après Floride, grand état, et donc on pouvait imaginer qu'il avait tout pour plaire. Et il avait même, on peut dire, une certaine façon, une belle gueule. Bon, sauf que il aurait dû foncer dès l'instant où Trump était un genou à terre, et il a pris son temps. Il n'a pas pris son départ. Et du coup, on a constaté qu'il n'avait pas de charisme. Et ça, en politique, vous savez, ça joue le charisme. Même Biden, il a d'une certaine manière un charisme, peut-être d'un homme d'un certain âge, mais il a un certain charisme du vieux briscard de la guerre froide, mais etc. Ouais. Tandis que lui, il a le charisme d'une huître. DeSantis, il a le charisme d'une huître. Et Trump, qui a toujours été un très bon pour les surnoms, l'appelle Mister de Sanctimonious. Il joue sur le DeSantis, de Sanctimonious. Et de Sanctimonious en anglais, Sanctimonious, ça veut dire le sentencieux. C'est Monsieur le sentencieux. Il se fout de sa tête, si j'ose dire, en permanence. Et du coup, ça n'a pas tardé. Trump, aiguillé par les attaques, remonte. Aujourd'hui, le dernier sondage, 49 pour Trump. Je parle de dans les rangs républicains, 19 pour DeSantis ou DeSantis tout court. Voilà. Donc les jeux ne sont pas faits, mais c'est pas râpé. Rien n'est râpé.
Il faut pas oublier
modéré.
Que Biden est un exemple sur ce plan-là. C'est-à-dire il a
Sleepy Joe,
il a rattrapé.
Sleepy Joe,
comme l'appelait Trump. Finalement, Sleepy Joe, il est devenu
un grand président.
J'ai dit que c'était pas joué.
Catherine Ney.
Non, mais moi, je ne connais pas M. DeSantis et je vois que Trump dit qu'il faudrait qu'il se fasse greffer de la personnalité quelque part dans le cerveau. C'est vrai, donc il se moque de lui.
C'est pour ça qu'il a demandé.
Une
petite pile dans le cerveau.
Mais est-ce que ça va dépendre des électeurs républicains, quoi. Est-ce qu'ils sont toujours aussi fascinés par Trump, malgré tout ce qui lui arrive, j'ai vu un film sur Poutine et les présidents américains. Et quand on voit Poutine face à Trump, qui avale tout ce qu'il dit comme si c'était une hostie, et qui le prend pour un crétin, et là, on souffre pour les Américains de voir comment Poutine considérait voilà, ne mépriser Obama, parce que d'abord il était noir, sûrement c'était raciste. Mais là, cette genouflexion de Trump devant lui, alors que l'opposition disait attention, attention à Poutine. Et là, on voit que vraiment, les insuffisances de Trump pour l'avenir, s'il était réélu, ça serait tragique.
Michel Cotta.
Non, mais c'est aux électeurs de le voir, ça. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit tragique, que le retour de Trump soit tragique dans cette période. Peut-être même, ça pourrait arranger certaines choses, mais Oui, je pense.
Poursuivez, non, cher Michel.
Qu'est-ce que ça arrangerait ?
Mais je pense simplement que il n'est pas en situation quand même vis-à-vis du monde de s'imposer. Non, je pense que vis-à-vis des Russes, peut-être que Trump aurait pu trouver des arrangements que les autres n'ont pas trouvé.
Oui,
avant.
Il a dit en trois jours, je règle l'affaire, ça c'est vrai.
Non, mais maintenant c'est tard. Mais il aurait pu à un moment donné, d'ailleurs.
Moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais Charles trouve qu'il y a une parenté entre les électeurs républicains américains et les électeurs républicains français, qui sont à la recherche eux aussi d'un leader charismatique et qui a un peu plus de talent que ceux qui sont en pointe à l'heure actuelle dans l'électorat républicain français.
Et ben ça sera le mot de la fin.
Ils n'ont pas fait 4% à l'élection présidentielle, les républicains américains. Même quand ils sont battus, ils ont fait quand même 48%.
Merci les grandes voix, on se retrouve la semaine prochaine. Bonjour à vous Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix. Venez avec nous au Sud de Coluche aujourd'hui, couscous party. On va faire le couscous dans les règles de l'art avec la chef Fatema Hall. Et puis Christelle Brua, l'ex-pâtissière de l'Élysée, vient d'ouvrir sa chocolaterie. Il y aura du chocolat aussi. À tout de suite.
On arrive.